Saint-Paul. Alors ce soir, nous avons la joie d'accueillir de nouveau dans ce studio de la rue de la Salie, monsieur le professeur Jacques Harlé. Monsieur Harlé, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Merci beaucoup d'être venu encore une fois. Alors cette fois-ci, c'est pour quelque chose d'assez original chez vous, c'est la rédaction de la publication d'un roman. Mais avant, si vous le voulez bien, comme d'habitude, je vais faire quelques présentations rapidement. D'abord, je voudrais reparler de Brigitte Maillard. Brigitte Maillard, monsieur Harlé, elle vous avait particulièrement paru intéressante pour son premier recueil à l'éveil du jour. Hein, je m'en souviens très bien que vous aviez été assez sensibilisé par cette écriture, le ton employé et puis également l'aventure de cette dame qui écrit et qui, par cette écriture, se dégage d'une angoisse et d'une souffrance par la poésie, ce qui est quand même à saluer. Alors Brigitte Maillard, puisque c'est d'elle dont il s'agit, a fait paraître toujours dans ses éditions qu'elle dirige Monde en poésie, hein, très belle édition avec couverture blanche, format de poche, fait paraître La simple évidence de la beauté, qui est d'ailleurs magnifiquement illustrée également par des photographies. Alors Brigitte Maillard, qui a fait paraître à l'éveil du jour, avait auparavant publié Soleil vivant soleil, avec une préface de Michel Cazenave, à la librairie Galerie Racine. Elle cite en préambule de son recueil François Cheng, qui dit ceci: au cœur de ces conditions tragiques, c'est dans la beauté que l'homme puise sens et jouissance. Est-ce que c'est une formule qui vous plaît, ça? Hein? Au cœur de ces conditions tragiques, c'est dans la beauté que l'homme puise sens et jouissance.
C'est vrai.
Vous l'avez largement ressenti, vous qui avez été aussi au cœur de la souffrance par votre métier.
Mais hein? Oui, bien sûr.
Alors, un petit extrait de ce beau recueil. Donne-moi ta chaleur, ta couleur, ton odeur, et je vais de ce pas me mettre à danser, vibre l'amour des croisés au large des océans. Vibre la lumière au palais des mirages, vibre le temps qui reste, vibre. Voilà, la simple évidence de la beauté de Brigitte Maillard. Et puis très rapidement, je voudrais revenir sur ce livre de Jean-Luc Pouliquen, sur Georges Pompidou, un président passionné de poésie, donc avec la préface du professeur Alain Pompidou, qui est rhumatologue, je crois qu'il est toujours en exercice, hein, qui est rhumatologue, comme l'a été le professeur Harlé. Alors, nous aurons le plaisir de reparler de ce livre avec Jean-Luc Pouliquen, mais je voudrais de nouveau le citer, parce que vraiment, il est à lire, il est très facilement, c'est une lecture qui est très facile. Il est publié aux éditions L'Harmattan, comme vous, monsieur Harlé, et il coûte 11,50 €. Et puis, je voudrais également rappeler que Simone Allier-Daran, qui est membre, maître S-Jeux, de l'Académie des Jeux Floraux, a fait paraître également un recueil de poésie, Désinvolte Eros, dont nous avons parlé, mais que je voudrais également reciter, parce que je crois qu'il mérite vraiment d'être connu, ce recueil. Dans 10 ans, entendrai-je les mêmes merles et les pigeons roucouler? Les mêmes pavés s'enfonceront-ils sous mes pas, écrasés de pierres, embourbés d'incertitudes, cassés d'existence? Les merles ne me feront plus sourire, l'eau de la fontaine chuintera ses moqueries. 10 ans, disons 10 ans. Je suis l'épouse ultime, la dernière empreinte, la dernière connivence, la dernière fusion, le dernier embrasement. Je sais que tu m'attends. Voilà, j'ai vu un ton qui est un ton quand même très nostalgique de Simone Allier-Daran. Donc ça s'appelle Désinvolte Eros, poésie. Ça coûte 10 €. Vous aurez les coordonnées de l'endroit où vous pouvez vous procurer ce livre, sur notre site les-poètes.fr ou en écrivant à daramali, daramalie @free.fr. Voilà. Et puis je finis sur Jean Joubert. Jean Joubert qui nous a quitté au début de l'été. Au début de cet été, qui était la figure de proue de la Maison de la Poésie de Montpellier, qui a été un grand poète du XXe siècle, de la fin du XXe siècle et du début donc de ce XXIe siècle, dont il faudra admettre que l'œuvre était mal connue et j'espère qu'elle le sera bientôt. Souvent, il faut attendre que les poètes meurent pour découvrir à quel point ils ont été importants. Et notre ami Bruno Doucet a fait paraître dans sa collection Poésie « Longtemps j'ai courtisé la nuit » de Jean Joubert. Ça a été d'ailleurs son dernier recueil publié. Jean Joubert qui nous a quittés, donc sa voix nous manque, dit Bruno Doucet. C'est en silence désormais qu'il nous parle, mais avant de partir, le poète a pris soin d'adresser à ses amis les poèmes qu'il écrit au fil des jours. De l'alphabet des ombres, comme autant de lettres pour conjurer l'absence. Ce sont donc ces poèmes inédits, fidèlement rassemblés, qui constituent la majeure partie de ce livre. Pour avoir longtemps courtisé la nuit, le poète n'ignore pas celle qui s'avance à pas de louve, mais son inquiétude est ailleurs, dans la brutalité qui s'est emparée du monde, la violence faite aux femmes, et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de grande sensibilisation de cette violence faite aux femmes, où le grognement des tueurs souterrains, menace auquel il objecte une promesse d'aube et un parfum d'enfance, fidèle en cela au vœu de son premier recueil qui s'appelait « Les lignes de la main ». Juste un très court extrait. Je me suis vêtu de blanc comme on chante. Femme nue, femme masquée, perle folle ou fruit de l'ombre, à chacune j'ai consacré l'antique bijou qui la brûle. L'ombre d'une aile sur la gorge, l'ombre d'un bec au creux du ventre, le cri du coq à la dormeuse éblouie de sa propre chair, un loup de cerne à l'innocence, jusqu'aux cuisses des bas de boue, un infante, un éclat de nuit, léché de langues amoureuses. Une vipère au ventre ému, à la rêveuse une morsure, une griffe à la désireuse, une corde à la désirée, aux mains perdues la sanguinaire qui fleurit au jardin mortel, fille masquée, femme de fer, sœur captive de vos richesses, à votre feu noir, je préfère la nudité pour mes princesses. Jean Joubert, voilà. J'ai voulu choisir ce poème qui fait l'éloge du corps de la femme,
oui.
Hein, pour se souvenir de Jean Joubert. Voilà. Et puis j'arrête là. Jacques Carlet. Alors, Jacques Carlet, j'avoue que j'ai été vraiment très impressionné par ce roman. Je me suis dit, mais comment peut-on avoir autant de qualité comme ça, hein? Alors, Jacques Carlet, vous êtes professeur de médecine, donc professeur émérite, bien sûr, maintenant, et vous avez publié un nombre assez impressionnant, quand même, de livres, hein, depuis que vous avez arrêté vos activités médicales. Et je me dis, en définitive, c'est très rare maintenant d'avoir des gens qui sont à la fois scientifiques et littéraires. Ce qui n'était certainement pas le cas, vous aurez certainement l'occasion d'en parler tout à l'heure, ce qui n'était certainement pas le cas au XIXe siècle ou même au début du XXe siècle, parce que ça faisait partie, les humanités faisaient partie des connaissances obligées que l'on devait avoir. Et donc vous avez écrit un de vos premiers textes, c'était sur ce curé en Ariège que j'ai connu, c'était Quasi-Rivière. J'étais très étonné de cela. C'est Francis Loubatière, hein, qui avait publié ça en 92, Quasi-Rivière, qui avait été un grand ami de Jacques Brel, par exemple, oui. Hein, qui avait été d'ailleurs ami avec tous les grands, ceux qui sont devenus les grands chanteurs du XXe siècle. Jacques Brel, Brassens, hein, et qui avait donc, c'était assez étonnant parce qu'il vivait dans un petit hameau en définitive d'Ariège et dans lequel il invitait de grandes personnalités. Alors vous avez écrit sur lui, vous avez écrit également sur La vie à Toulouse sous Louis-Philippe, toujours chez Loubatière, Le Second Empire. Donc on va de biographies en description d'époques qui ont été des époques très riches à Toulouse, le Second Empire, Toulouse à la Belle Époque, on a eu l'occasion d'en parler ici. Deux siècles de progrès dans le traitement des rhumatismes, donc là aussi on saute vraiment dans un domaine tout à fait médical, très très particulier. Et puis vous revenez, les Toulousains remarquables, on a eu le plaisir de faire cette émission sur les Toulousains remarquables, Rémusat, puisque Rémusat est un des grands personnages de Toulouse, les poètes toulousains de la Belle Époque, ça a été la première émission que l'on a fait avec vous ici, sur ces fameux poètes toulousains, les journaux satiriques toulousains de la Belle Époque, le général Lafayette, gentilhomme d'honneur, là aussi c'est une découverte, l'Harmattan. La vie à Toulouse dans l'entre-deux-guerres chez Loubatière, dont nous avons parlé également ici. Et puis La vie à Toulouse sous Louis XIV et Comte sans provision. Ça, nous en avons pas. Si Comte sans provision, nous en avons parlé, pardon. Oui, on a fait une émission là-dessus. Mais La vie à Toulouse sous Louis XIV sera notre prochaine émission avec vous. Alors, donc, on a vu biographie. Récit historique avec ce que vous nous présentez maintenant, Jacques Carlet, Le secret d'Horace Sinclair, donc ce n'est plus de l'histoire, mais on est dans le roman.
Voilà.
Et on retrouve dans ce roman, en définitive, toutes les facettes de votre art, puisqu'il y a de l'histoire, d'un roman historique, et une histoire où on voit que vous êtes passionné quand même de cette histoire-là, me semble-t-il, hein, du Second Empire, de la fin du XIXe siècle, qui est un siècle important pour les découvertes scientifiques, hein, et pour le bouleversement un petit peu de la vie politique aussi française.
Et le début aussi, c'est la période du romantisme. On se moque un peu maintenant, mais qui est quand même une grande chose.
Absolument.
Du point de vue littéraire.
Oui, du romantisme qui va entraîner l'époque moderne que nous connaissons.
Bien sûr.
Et puis, ça également, donc il y a la médecine, on va retrouver la médecine aussi dans ce roman, mais également on va trouver les voyages, donc des lieux. Alors le premier lieu dans Le secret d'Horace Sinclair, on va en parler, mais on va pas bien entendu dévoiler tout le roman, hein. Ceci étant, il faut dire que ce roman, et ce qui est extraordinaire quand même, c'est la fluidité de l'écriture. Vous êtes véritablement romancier, mais alors, c'est-à-dire que on vous lit avec hâte de lire la suite. Il n'y a pas d'essoufflement dans l'écriture, hein, ça se lit presque même, je dirais, trop vite. Il y a toujours un intérêt, on est tenu en haleine par l'histoire. Il y a toujours cette surprise du récit qui avance, et en même temps. Beaucoup de digressions qui sont faites de façon très habile, très savante dans le récit, qui nous amènent à voir ces renseignements justement sur ce dont je parlais, c'est-à-dire les lieux, sur l'époque, sur les mœurs de l'époque. Tout ça est terriblement prenant, terriblement intéressant. Alors monsieur Arlet, on part des Antilles. Votre personnage, le héros du roman, Lucien, part des Antilles.
Alors, le héros a existé, mais je lui ai changé son nom,
oui.
Je lui ai changé son origine. C'est l'arrière arrière-grand-père de ma femme, qui fait partie d'une famille qui s'était vendéenne, qui était en partiellement détruite par la guerre de Vendée, et dont le personnage qui est resté en vie s'est installé finalement dans une île des Antilles qui n'était pas Sainte-Lucie, mais qui était Trinidad et Tobago. Et il y avait là donc toute une famille de Verteuil qui existe encore et qui a proliféré pendant deux siècles. Donc j'ai changé le nom, j'ai changé l'origine de l'île et j'ai raconté quelque chose qui n'a pas été raconté, car cet arrière-grand-père, on a écrit sa vie. Et sa vie a un grand trou par rapport à sa présence dans l'île. C'est quand son père l'a envoyé en France pour apprendre la médecine. Il est resté à Paris pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Et le biographe n'a rien dit là-dessus, sur ses 15 ans de vie à Paris. Donc, je les ai inventés.
Mais donc, je ne savais pas.
Comme j'aime beaucoup ce 19e siècle que je connais bien, eh bien, j'en ai rajouté là, autant que j'ai voulu.
Alors, bon, je ne savais pas que ça partait qu'il y avait un fond de personnage qui a vraiment existé. Alors, ce sera le premier prétexte, c'est aussi de dire. De décrire cette vie que l'on connaissait déjà à l'époque, déjà dans cette île de Sainte-Lucie, hein, donc de les Antilles de l'époque. On apprend beaucoup de choses. On apprend que l'île était une friche et que c'est la volonté de la nation française, en définitive, d'installer sur ces friches des colonies et de planter des cannes à sucre et des cacaoyers.
Voilà. Voilà.
Donc c'est par décision, une décision donc française, hein, d'apporter ces cultures dans cette île. Et le père de votre héros va faire partie de ces familles qui vont se mettre à l'œuvre.
Voilà. Hein.
Il y a aussi, alors dans le ton de ce roman, il y a un ton savoureux, je trouve quand même. Il y a des épisodes qui sont des anecdotes que vous racontez, qui sont très plaisantes, un peu, comment dirais-je, par exemple, page 10, tout à fait au début, je trouvais que c'était vraiment dans le... Quand votre héros, Lucien, arrive en France et prend la diligence, je ne sais pas comment vous l'appelez,
oui.
Je sais pas. Oui, il y a là un personnage, une femme qui veut rentrer dans la diligence et qui va protéger son chapeau de paille. Par sa jupe et ses jupons. Voilà. Et ça donne vraiment, on voit une scène de film là, hein, et voilà. Même dans les dialogues, hein, et elle répond, eh ben, dites donc, ce que je voudrais pas abîmer mon chapeau, vu qu'il est neuf, et en paille d'Italie, et mon cul, que vous feriez bien de ne pas reluquer comme ça, il est pas neuf et il peut supporter la pluie, lui. Voilà. Donc un ton qui sait être tout à fait prime sautier, très vivant, très très vivant. Donc on ne s'ennuie vraiment pas dans ce roman. Hein. Alors, à part ça, il y a toute une trame, quand même une trame de récit qui est assez compliquée malgré tout, hein.
Un peu policier. Voilà.
Oui, voilà. Il y a véritable. Oui, puisque c'est une enquête, ce récit. C'est une enquête. D'abord le titre, Le secret d'Horace Sinclair, dont on dit bien qu'il va y avoir quelque chose à découvrir. Hein.
Et oui.
Et est-ce qu'on peut en parler d'ores et déjà de ce secret, puisque vous en parlez
bien
très
sûr,
vite en définitive.
Oui.
Hein.
Ça, oui. Ça, c'est le père de Lucien, qui a envoyé donc son fils apprendre la médecine en France et qui, avant de mourir, lui envoie une lettre, il est en terminale par là, lui disant, il faut que tu t'occupes d'une personne. Parce que j'ai reçu une note d'un notaire me disant que j'avais une fille. Voilà. Et il est exact que quand je suis allé à Paris, à deux reprises, j'ai vécu pendant quelque temps avec une jeune femme charmante, un petit peu, évidemment, légère et sur les bords. Et bon, je ne parais du tout réaliser que j'avais pu lui faire un enfant, mais enfin, il paraît que une fille de cette femme serait de moi. Voilà. Alors, je voudrais que tu fasses une enquête pour la retrouver, parce que en plus, j'ai mis de côté de l'argent pour elle. Voilà.
Ouais. Donc, une partie
donc, c'est cette enquête, et c'est comme ça que Lucien va partir tant qu'il pourra. Parce qu'il y travaille quand même, il n'a pas que ça à faire. Il va partir à la recherche de cette demi-sœur, en somme. C'est comme ça qu'il finit par arriver en Périgord, que je connais bien, au pays. Puis ensuite en Espagne avec Théophile Gautier, parce que la mère de cette possible demi-sœur a vécu quelque temps en Espagne et a accouché cette fille en Espagne. Et puis ensuite il est parti en Pologne parce que parmi les amants de cette femme, il y a eu un Polonais, semble-t-il, on en parle, donc peut-être qu'on va le trouver là-bas.
Alors donc, il y a les lieux, là, dans le récit, va être fragmenté donc, par cette enquête, cette recherche, qui va prendre du temps, hein, parce qu'il va pas s'y précipiter quand même, hein. Et donc ça va être ce récit. Vous allez d'abord décrire aussi au départ le milieu parisien, oui. Hein, puisque il fait ses études d'abord secondaires à Paris,
Juilly,
au collège de Juilly. Où là aussi il y a des digressions qui sont intéressantes. Vous parlez de Chateaubriand. Vous dites que c'est le modèle qui était le modèle littéraire de l'époque,
et oui.
Hein, modèle Chateaubriand. Et puis après le lycée, ce sera la faculté de médecine. Donc il rentre dans la faculté de médecine, et donc il y a description de ce milieu aussi, du milieu universitaire de cette époque-là, de la fin du 19e siècle. Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de recherches, ça?
Ben, vous savez, oui, j'ai passé quand même, on peut dire, les deux tiers du temps à faire de la recherche, ah oui. Et le tiers ensuite à écrire et à mettre ça en place. Ah. Voilà.
Oui.
Obligatoirement. Donc c'est pour ça que je suis très à l'aise dans cette histoire du 19e siècle, parce que j'y ai passé des années, quoi.
D'accord. Oui. Oui, c'est pour vraiment vous y balader.
Y compris dans le coche d'eau.
Oui.
Parce que vous savez que quand ils sont partis avec un ami toulousain qui habitait Paris, qui était un poète aussi, Alexandre Soumette, qui était académicien d'ailleurs de Geoffroy.
Oui, là aussi vous placez, c'est rigolo.
Bien sûr, ils sont partis vers le Périgord en passant par Bordeaux, ouais. Ils sont arrêtés à Angoulême et puis à Bordeaux, ils ont pris le coche d'eau.
Oui.
Et je peux vous raconter un petit morceau de ce voyage en coche d'eau, quand même. Quand ça, c'était nouveau.
Oui, tout à fait.
C'était tout à fait la dernière mode. À Bordeaux, ils prirent le nouveau coche d'eau à vapeur, qui remonte la Garonne jusqu'à Agen. C'est une invention merveilleuse. La vapeur remplace littéralement les chevaux. Pauvres bêtes martyrisées qui tiraient autrefois le bateau sur le chemin de halage. Il faut quand même s'arrêter de temps en temps pour nourrir la chaudière. Et ce n'est pas du picotin qu'elle mange, ce sont des stères de bois. Ils apprécièrent par-dessus tout l'extraordinaire douceur de la navigation, ce glissement merveilleux qui contrastait tant avec les horreurs des chaos et des brinque-ballements de la diligence sur les routes défoncées. Car ça, c'était pas très marrant, ça, de venir sur la diligence. Désormais, tout n'était que luxe et calme, à l'exception, cependant, du bruit de la chaudière. Le capitaine du navire était un retraité des lignes d'Afrique, bedonnant, couperosé et peu causant. Aussi, le personnage le plus important, c'était le cuisinier qui nous régalait du plus délicieux de plats délicieux avec des vins de Bordeaux au parfum de groseille. Nous le savions, c'était déjà parvenu aux oreilles des Parisiens. On savait que le coche d'eau de Bordeaux à Agen était réputé pour sa cuisine et pour ses vins. Voilà, je peux m'arrêter là, si on a d'autres choses à dire sur d'autres sujets.
Oui, alors donc, vous parlez aussi de... Là c'est le voyage dans ce coche d'eau qui est tout à fait... à l'époque, c'était une innovation. Hein,
oui. Hein.
Mais vous parlez aussi du voyage en diligence, en particulier, si j'ai bonne mémoire, de quand il arrive à Cherbourg et qu'il va à Paris, donc il prend la diligence. Là, c'est quand même long. Et là, il se crée, effectivement, fatalement, il y a des liens qui se créent entre tous les voyageurs, hein, du fait du confinement et de la durée du voyage. Et vous dites même celui qui essaie d'être le plus réservé à la fin, ben, on en sait quand même pas mal sur lui, quoi.
Il y a la diligence, ils sont restés 4 heures.
Oui, oui.
4 jours.
Pour aller
de Cherbourg à Paris, 4 jours.
Oui. Donc on a le temps de se connaître.
Il y avait ce certain Machard qui parcourt un peu tout le livre.
Oui, alors le Machard, oui.
Il est à la fois
un personnage.
Un peu douteux.
Donc, oui, un peu.
C'est.
Un peu inquiétant.
C'est espion.
Voilà.
Et en même temps, il fait des affaires en même temps. Avec, oui. Et qui a découvert dans cette diligence, justement, une jeune femme très sympathique avec laquelle il va finalement se mettre en ménage. Voilà. Et qui jouera un rôle aussi dans l'évolution du roman.
Voilà. Alors, ce Machard, là aussi, il fait fortune grâce à la Grande Armée.
Voilà.
Parce que, à cette époque-là, ce sont les guerres napoléoniennes qui ont été des guerres extraordinaires au point de vue
si on était fournisseur,
engagement matériel et humain.
On était sûr de gagner de l'argent. Là.
Oui. Donc lui fournissait aux armées et c'est comme ça qu'il fait fortune. Alors, il y a aussi chez vous, on sent aussi ce besoin de chez Lucien de s'instruire. Et je dis ça aussi, c'est dans l'inconscient de Monsieur Orlet, il y a cette incitation à dire au monde il faut s'instruire. Est-ce que vous l'avez?
Ah oui, ça,
c'est. Hein, je ressens ça. Oui.
De mes données capitales, ça.
Oui.
Et quoique l'ignorance est épouvantable, que c'est pour ça qu'il faut.
Et votre
mettre en œuvre tout ce que l'on peut. Okay, on a gagné quand même. On a gagné beaucoup de monde puisque les universités toulousaines sont passées de 6 000 à 100 000 en 50 ans, quoi.
Oui.
Ça montre bien, même si l'enseignement est incomplet, on le critique beaucoup, l'enseignement secondaire, mais ça montre bien quand même que on a affaire à des gens, à des jeunes qui en savent beaucoup plus que nous en savions, finalement. Puis qui s'instruisent avec la télé, qui s'instruisent. Donc ça, c'est capital.
Et votre héros, il est travailleur et obéissant.
Voilà, alors il apprend beaucoup parce que à l'académie, dans les hôpitaux de Toulouse, il y a des gens intéressants, en dehors des médecins, il découvre Littré, qui est un personnage étonnant.
Oui.
Il a passé une partie de sa vie dans les hôpitaux. Tout ça pour écrire le premier dictionnaire français complet avec Hachette.
Oui. Voilà.
Parce qu'il disait, moi je voudrais bien faire la médecine, mais je ne m'en sentirais capable que lorsque je connaîtrais tous les mots qu'il explique et tous les substantifs de la médecine. Alors je suis très loin de ça, n'est-ce pas? Donc il a commencé par apprendre le français, en détail.
Oui.
Avant, il n'a pas été médecin finalement, je crois. Enfin,
Mais est-ce que ça s'est pas un peu perdu, ça? Je fais une petite digression là. Hein. Est-ce que maintenant, chez les étudiants de médecine, est-ce que ce côté qui renvoie au vocabulaire, à la langue, à la précision de la langue, ne s'est pas un petit peu abandonné et... Est-ce que, avec le cloisonnement de plus en plus important de la science, hein, qui sépare...
La partie scientifique de la médecine est devenue beaucoup plus importante. C'est
ça. Oui.
Donc, on a 24 heures sur 24 pour l'apprendre, donc on a moins de temps pour lire Flaubert ou pour lire Balzac.
Oui.
C'est sûr. Deuxièmement, c'est là... Ce qui se passe actuellement, c'est que les gens s'instruisent autrement, par d'autres moyens, avec la télé, avec les choses. Et donc, on laisse tomber un petit peu la littérature, ainsi que la grammaire. De ça, tout le monde en parle, tout le monde le sait. C'est un vaste problème. Et on laisse tomber l'histoire aussi, ce qui est plus grave pour moi.
Oui, ça.
Tout à la grammaire.
Oui, oui, ça fait. Parce que c'est toujours, on en parlait justement... la semaine dernière, nous avons reçu ici le secrétaire perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, que vous connaissez bien, puisque vous êtes membre de l'Académie des Jeux Floraux, qui est aussi un historien, puisque il s'occupe d'histoire contemporaine. Et je disais que c'est toujours avec la lumière du passé que l'on se dirige vers l'avenir. Ça, c'est ne pas connaître le passé, c'est ne pas pouvoir se diriger.
Oui.
Et pour comprendre d'ailleurs tous les événements politiques, cette règle s'applique, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde votre livre, quand on lit votre livre, quand on regarde le périple de ce Lucien-là, on voit aussi le déroulement de l'histoire. Hein.
Et, oui.
Et les choses s'enchaînent et ont une explication, parce qu'il s'est passé quelque chose avant.
Il y a deux ou trois révolutions, 1830-1848.
Voilà.
D'ailleurs, je peux vous dire
oui,
un mot
voilà.
Est-ce sur 1848 parce que ça s'est passé en douceur, si j'ose dire. Louis-Philippe était un pacifique. Voilà, le 23 février 1848, on est au bord de la révolution. Et le 24 février, c'en est déjà fini, de Louis-Philippe. Alors je lis dans le journal de Lucien, parce qu'il écrit un peu, Lucien, il prend des notes. Ce pauvre roi, la queue entre les jambes et par la porte de derrière, le voilà parti. Son prédécesseur avait fait pareil, mais avec plus d'équipage. Ce pauvre Louis-Philippe, pauvre si l'on veut, mais pas si pauvre que ça, c'est une des plus grosses fortunes de France, est parti avec son parapluie comme seul compagnon. Il aurait dit en partant, c'est bien pis que Charles X. Voilà, son prédécesseur, qui avait fait des histoires. Voilà. Et j'ajoute que, si je parle de ça, c'est parce que Rémusat était là aussi, derrière. Que je connais bien, il était derrière l'épaule de Louis-Philippe. Il était très bien vu de la famille
royale.
Royal. Il était là, reçu comme chez lui, et donc il était là le jour de l'abdication, et il a poussé plutôt l'abdication. Il a dit, vous savez, la partie est perdue, c'est pas la peine de faire des histoires. Et donc il était là lorsque Louis-Philippe a rédigé sa publication. Il le raconte.
Alors, il y a...
Est-ce que vous voulez la première de Gisèle?
Oui, la première de Gisèle, oui, voilà. Alors, d'abord dire un mot ce qu'était la première de Gisèle.
Gisèle, c'est quand même un ballet parmi les trois ou quatre qui sont les plus souvent joués
dans le monde.
Aujourd'hui dans le monde.
Oui, oui, oui.
Et il se trouve que c'est Théophile Gautier qui en a fait la partie écrite.
Le récit.
Voilà, le récit. Et que c'est un certain musicien qu'on connaît peu, qui s'appelle Alphonse Adam, qui était Ils ont gagné beaucoup d'argent dans cette affaire, n'est-ce pas? Et ça continue. Enfin, oui. Les descendants, je suppose. Oui. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai écrit ça, dernière édition?
Page 110.
La première dizaine. Alors, Nestor Roqueplan, qui avait un nom extraordinaire, c'était le directeur de l'opéra, qui était devenu un copain de Lucien, qui lui a donné des places pour la première fois, la première du ballet qu'avait écrit Gautier. J'étais à la première de Gisèle. Théophile n'y croyait pas. C'est lui qui en avait écrit le livret. Pour l'amour de la danseuse qui s'appelait, qui était très belle et qui est une très bonne danseuse, qui s'appelait Carlotta Grisi. Lucien racontait souvent la découverte de cette admirable danseuse. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas qu'elle était blonde et rose, la taille fine mais avec des rondeurs aux bons endroits. J'étais avec Hélène, nous avons été émerveillés par la danseuse et aussi par la musique et par le décor. Au second acte, le spectacle de la clairière et de tous ces arbres d'où sortent et s'envolent les petites fées nordiques, c'est stupéfiant, mais Carlotta est sublime, et d'une grâce et d'une légèreté suprême. Nous sommes allés la féliciter dans sa loge avec Nestor, Théophile était là, elle la remercia avec beaucoup de gentillesse et de grâce, ainsi que le compositeur Adam, qui n'en revenait pas, car Gisèle fut un triomphe.
Alors on parcourt avec ce roman des personnages qui ont marqué le 19e siècle. Vous avez parlé de Littré avec son dictionnaire, de Rémusat. Vous avez parlé de Théophile Gautier, puisqu'il accompagne, qui a une place très importante, voilà, dans le roman.
Et ils vont en Espagne ensemble, ils font le voyage en Espagne ensemble. Oui. Théophile Gautier vivait de sa plume, et c'était un journaliste, en fait. Il a écrit aussi des poèmes, bien sûr, des camées, il a écrit des romans, mais il n'a pas fait de gros tirages comme les autres. Et donc, il était obligé d'écrire tous les jours dans le journal. Le journal de Girardin, qui lui a envoyé en Espagne, lui disant, tu m'enverras tous les jours quelque chose sur ton voyage. Oui, comme il avait toujours des choses à dire, mais de façon très agréable. Il avait une bonne plume, et très, très charmante, Gautier. Oui, ils sont partis, et chaque jour, Gautier écrivait.
Par exemple, il a écrit sur l'Alhambra.
Voilà, ils ont été sur l'endroit, oui. Et puis ils ont découvert donc c'est toujours une partie du problème qui explique le silence d'Horace, n'est-ce pas? Oui. Car finalement, l'ami d'Horace était bien un petit peu prostituée sur les bords, et elle a fait un enfant, elle a fait cet enfant-là, cette demi-sœur, si j'ose dire, qui n'en était pas une, elle l'a fait à Madrid. Oui. Donc c'est un des épisodes, on court après cette naissance. Alors, elle l'a fait à Madrid. C'est là qu'on a appris que, un petit peu plus qu'il y avait eu aussi parmi ses amants, un colonel polonais, et ceci va nous amener donc à la prochaine étape, et la prochaine en Pologne.
Donc un long voyage, hein, puisque également on est allé à Grisolles aussi, les parents en Périgord. On pourrait peut-être finir. Il y a aussi un personnage quand même dont il faut parler, qui a beaucoup marqué le 19e siècle littéraire, c'est Balzac.
Oui. Alors, Balzac était un ami de Théophile Gautier, et Balzac, qui gagnait beaucoup d'argent avec ses livres, était toujours
endetté.
En déficit, il n'avait pas le sou. Ouais. Il dépensait l'argent comme ça. Lorsque son tailleur est venu le trouver pour la troisième fois, en lui disant, voilà ce que vous me devez, monsieur. Ah, ben, écoutez, si vous continuez comme ça, je renonce à me faire traiter par vous. Je vous abandonne. C'était comme ça, les grands seigneurs, autrefois. Ne pillez pas.
Ne pillez pas, oui.
C'est comme ça. Je vous fous de Donc, il était comme ça, Balzac. Et ce pauvre Théophile Gautier était obligé de lui prêter de l'argent. Alors qu'il gagnait beaucoup moins.
Beaucoup moins, oui.
Balzac. Il y a l'histoire de... C'est amusante aussi, c'est l'histoire de Victor Hugo qui couchait avec... avec cette dame et qui s'est fait pincer par le mari qui a envoyé le commissaire de police et au bon moment, justement en train de s'amuser tous les deux. Et ça, Victor Hugo était quand même pair de France.
Oui. Le grand délice.
Le grand scandale. Le Philippe l'a appelé par en disant, dites donc, qu'est-ce que vous avez fait là? Il faut que vous fassiez, que vous disparaissiez pendant quelque temps, qu'on ne parle plus de vous pendant quelque temps, c'est ça. Alors, finalement, il s'est caché, mais il n'est pas parti.
Alors, peinture des mœurs, hein, tout ce que vous dites, c'est les mœurs de l'époque, hein,
oui.
Des mœurs de l'époque qui sont étonnantes et décrites dans ce roman avec délices. Mais également, alors il y a les mœurs de la société médicale, en particulier dans l'épidémie de choléra, où on voit vraiment qu'il y a là un dévouement, hein, un altruisme très très important de tout le personnel médical, puisque celui qui arrive à s'exonérer de sa présence pendant l'épidémie de choléra, celui-là va être mis au banc.
Oui, en général, va être mis au banc. Voilà,
oui.
Il est mal vu.
Oui. Alors il y a tout ça dans ce livre. Ça, oui. Il nous reste 4 minutes. On va, si vous voulez bien, oui, vous parler de l'arrêt quand même aussi, hein, oui. Puisque nous avons ici un hôpital, l'arrêt. Et ça devient, il est un des personnages
C'est Dominique Larré, c'est-à-dire que ce n'est pas...
Ah, c'est pas le chien.
C'est toute une...
Oui,
c'est une famille. Ils sont trois ou quatre à avoir fait de la chirurgie orthopédiste. Le premier, donc, qui arrivait des Pyrénées à pied, n'est-ce pas, et qui a créé, en quelque sorte, la chirurgie orthopédique à Toulouse, qui est resté à Toulouse, qui était le chirurgien-chef de la Grave, et qui a vu arriver son neveu Dominique.
Oui.
Qui voulait faire de la chirurgie aussi, il l'a pris avec lui, puis il l'a envoyé à Paris.
Oui, et c'est lui qui est à Paris.
Il a fait une grande carrière, puisqu'il est devenu le chirurgien de Napoléon, le chirurgien de la garde. Et il était très aimé de Napoléon. Je crois que c'était un type qui avait beaucoup de cœur, et qui en même temps faisait son métier admirablement. Il avait inventé les ambulances volantes.
Oui.
Parce qu'il trouvait qu'on gardait les gens. On ne savait pas quoi faire de ces pauvres blessés sur le champ de bataille, qu'on les portait à deux sur des brancards, et qu'ils arrivaient trop tard ensuite derrière pour qu'on les opère. Alors donc ce brave Larré a inventé les très légères voitures, n'est-ce pas,
et les chercher les blessés.
On pouvait mettre 3 ou 4 blessés et les emmener très vite en arrière. Et il avait fait une chose assez remarquable pour moi. C'est que, à la fin des batailles de Napoléon, il trouvait de moins en moins de volontaires, et il y avait de plus en plus de jeunes gens qui se blessaient pour ne pas aller faire la guerre. Et alors Napoléon a demandé à Larré de faire une enquête. Larré, très gentiment, a dit, vous savez, ils ne savaient pas se servir de leur fusil, alors, c'est pas volontaire, etc. Napoléon a bien compris que, Larré a rangé les choses, mais enfin, il ne l'a pas voulu. Voilà. Donc, je trouve que c'est un geste assez remarquable de la part de Larré.
L'humaniste. Il nous reste peut-être 2 minutes. Si vous voulez bien, on pourrait terminer par la lecture page 170 qu'on avait...
Ça, c'était le début de la Révolution.
Oui.
Le même 4 février, donc... la Révolution était déjà finie, ou presque. Lucien assista avec Hélène à la proclamation de la République, la seconde du nom. Il s'est trouvé sur la place de l'Hôtel de Ville avec 200 ou 300 personnes assez agitées et qui attendaient qu'il se passât quelque chose. Lucien et Hélène furent abordés par un jeune ouvrier qui leur dit « Alors, les bourgeois, c'est pas votre jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la République, et demain, ce sera la sociale. Sur le soir, la foule comprit que ce quelque chose allait arriver. Les fenêtres de l'hôtel de ville étaient éclairées, et l'on voyait à travers un théâtre d'ombre. Comme rien ne venait, certains commençaient à se retirer. Quand une porte s'ouvrit au rez-de-chaussée et l'on vit en sortir, un homme un peu maigrichon, en habit noir, qui tenait un papier à la main et qui allait faire une déclaration, c'était bien cela. Il demanda le silence et lut la proclamation suivante. Le gouvernement provisoire veut la République, sauf ratification par le peuple, qui sera immédiatement consulté. Cette déclaration n'entraîna pas un enthousiasme fou. Seules quelques voix s'élevèrent pour crier « Vive la République !» Puis l'individu enchaîna. Au nom du peuple souverain, ont été désignés comme ministres les citoyens suivants. Et les noms suivirent, qui n'entraînèrent aucune manifestation d'approbation ou de désapprobation, sauf le nom du général Lamoricière, désigné par le ministre pour le ministère de la Guerre, un grand garçon qui avait un fusil sur l'épaule, cria « Non !» Pas ça, pas la Mauricière, il a fait tirer sur le peuple.
Merci beaucoup.
C'est passé ça.
Oui, oui. Merci beaucoup, Jacques Arlé. Alors, Le secret d'Horace Sinclair, de Jacques Arlé, aux éditions L'Harmattan, un roman historique qui vous coûtera 18,50 €, mais vraiment, avec lequel vous allez passer un moment, je pense, inoubliable, et apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, monsieur le professeur Arlé.
Merci, et Jérémy.
À la prochaine.
Très bien chez vous.
À la prochaine fois. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Citanio. Et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.